Est-ce que je connais mon corps? Est-ce que je sais quels sont ses... Est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que je suis heureux de mon corps? Est-ce que je me trouve trop gros? Est-ce que je me trouve... comment dire... Est-ce que j'aime mon corps? Est-ce que j'ai honte? Est-ce que j'ai des complexes par rapport à mon corps? Bon. C'est pas tout à fait anodin. Il faut aimer son corps. Il faut respecter son corps. Il faut avoir aucun mépris pour son corps. Même si un jour vous êtes handicapé, même si un jour il vous fait mal, même si un jour il y a des plaies, même si un jour vous êtes en dialyse, c'est votre corps. C'est vraiment votre frère âme. Il vous porte. On ne doit jamais mépriser son corps. Et on doit, enfin on doit, il y a qu'à, il ne faut pas, si vous voulez, on est toujours beau. La beauté... est une convention sociale qui peut être fondée sur les proportions, le chiffre d'or, tout ce que vous voulez. Mais il y a quand même un aspect, un aspect objectif à la beauté, et vous avez un aspect subjectif qui est excessif dans la beauté. On a le visage que l'on a, on a le corps que l'on a, et on doit l'aimer. On n'a pas le droit, c'est interdit, de détester son corps. Parce que c'est un don de Dieu, c'est comme la vie, on n'a pas le droit de se suicider. Alors ensuite, vous pouvez avoir des personnes malades, des personnes qui perdent l'esprit, des cas psychiatriques, des bouffées délirantes. On n'a pas le droit de disposer de son corps. Notre corps, c'est nous. C'est notre âme et notre corps. Pas négligeable ce que je vous dis. Et donc, si vous voulez, les personnes qui ont des obsessions par rapport à leur beauté, qui font de la chirurgie esthétique excessive et autres, il y a une faiblesse psychologique. Alors, dans le même temps, est-ce que je dois me négliger? Ben, non, non plus. La beauté du corps est quelque chose entretenu, la propreté quelque chose vraiment d'important. Et même dans le couple constitué qui partage son lit, sa salle de bain, tout ça, la propreté est quelque chose d'important. Et ça joue dans l'amour, dans l'estime de soi, de l'autre, et dans les années. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne doit jamais négliger. Il dit, mais est-ce qu'on va être maniaque et tout ça? Non, non, mais voilà, il y a quelque chose de... D'ailleurs, ça vous pouvez le voir comme vérité naturelle qu'on vous décrit dans de nombreux endroits. Vous voyez? Pas seulement dans Psychologie Magazine, mais voilà. Le fait d'être propre, le fait d'être de se tenir, même d'être parfois, d'avoir un peu de coquetterie, vous voyez, c'est bon. Ouais. Un vieux prêtre disait, justement, on doit pouvoir à certaines occasions se bien s'habiller, être se soigner, aussi bien la femme que l'homme. Ça fait vraiment partie d'un équilibre humain. Vous voyez. Et quand vous voyez les tableaux, les photos, tout ça, c'est vrai qu'à travers les siècles, il y a toujours eu des occasions où on fait les choses très bien. Mais ce n'est pas seulement aux grandes occasions. Voilà. Donc vous voyez, je ne suis pas à ce point-là amiche que je vous dirais de ne pas vous maquiller pour ces dames. Je ne vais pas aller jusque-là. Abordons-nous librement le sujet de la sexualité. Ah, alors ça, le couple que nous avons eu, un couple très, très uni, qui est assez extraordinaire, qui maintenant est face à la vieillesse et à la maladie, eh bien, ils vous en ont parlé abondamment. Voilà. Et moi je vous en parlerai d'une manière extrêmement crue et plus spirituelle. La manière qui est crue, c'est, si vous voulez, quand le pape Paul VI dit la contraception c'est contre nature, il dit, moi je vous le dis pas en tant que pape, je vous le dis en tant que protecteur de la loi naturelle. C'est-à-dire que vous le vouliez ou non, le sexe masculin et le sexe féminin sont faits pour s'unir, sans plastique, sans empoisonnement hormonal, sans dérèglement hormonal. C'est la nature du corps, les rythmes corporels. Et la prudence par rapport à l'espacement des enfants se fait avec une ouverture toujours possible à la vie, mais avec les observations naturelles par rapport à la fécondité. Alors vous allez me dire, oui, mais ça marche jamais. Vous avez vu dans les siècles passés, les personnes devaient être, certaines devaient être très prudentes, ils avaient toujours des enfants. Par rapport au cycle de la femme. Et alors de nos jours, on a des petits carnets, donc 1, 2, 3, 28, 29, 30, voilà, tel jour, machin, truc, telle température, la glaire cervicale du, comment dire, si elle est épaisse, si elle est liquide, enfin c'est ce qu'on appelle la méthode Billing. Et donc moi je connais des personnes catho qui font des méthodes Billing mais biologiques à un point tel que on dit mais c'est quasiment comme si vous preniez la pilule, donc calmons-nous. Et, c'est-à-dire c'est une peur panique de l'enfant de tomber enceinte. Alors vous allez me dire, mais quand même, c'est un célibataire qui nous rabat les oreilles avec tout ça. Vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de, vous n'êtes pas ennuyé, tout ça. Vous pourriez éventuellement le reprocher à un moine, et encore. Parce que voyez-vous, l'occupation d'une vie, de savoir combien d'heures vous passez avec vos enfants, combien de temps vous passez à assurer leur joie, leur subsistance, leur nourriture, voyez-vous. Tout être humain, s'il est oisif, s'il ne s'occupe pas des autres, s'il ne fait rien de sa vie, qu'il soit marié, qu'il ait des enfants, qu'il soit célibataire, si vous voulez, ça revient à la même activité de l'âme. Oui. Alors moi, sur ce plan-là, étant donné que j'ai 48 ans et j'ai trop de missions, j'ai trop de charges. Donc là, pour le coup, le premier qui me dit « Ah, mais vous n'avez pas d'enfants », moi, je sors deux flingues. Hein. C'est-à-dire que j'arrête pas de la journée de me soucier, de m'occuper des problèmes des uns et des autres. Et c'est avec beaucoup de joie. Donc, j'espère atteindre le titre de père, monsieur l'abbé, Abba. En hébreu, ça veut dire « père ». Et donc je me soucie, et je me réjouis, et je me réjouis, et je me réjouis. Et donc l'arrivée d'un enfant, c'est tout un monde, et la Sainte Église vous dit de ne pas avoir peur de l'enfant. Quelle est l'attitude de chacun de nous face à la fidélité du corps ? Quelle place donnons-nous à la tendresse dans l'amour, paroles, gestes et attitudes? Ça, le couple qui est venu a beaucoup insisté là-dessus. Et moi, je vais insister comme pour la propreté et la beauté. Les gestes d'affection sont vraiment importants. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes. Je vous parlais la dernière fois du devoir de s'asseoir. Vous voyez? Et donc, le fait de se parler, mais aussi de se toucher, pour montrer cette affection. Et donc, tout cela doit avoir sa place paisiblement. Union libre et mariage. Quelle différence voyons-nous entre union libre, pax, mariage civil et mariage sacramentel? On le verra un peu plus la prochaine fois. L'union libre, c'est le concubinage total. C'est-à-dire qu'on n'a aucune obligation. Du jour au lendemain, on met les affaires sur le palier et c'est fini. Oui. Le pax, c'est vous avez des avantages fiscaux et vous pouvez aller au tribunal de grande instance et déclarer que le pax est terminé et mettre les affaires sur le palier. Sauf que avec le nouveau régime du Pax, vous avez parfois des biens qui se sont mis à moitié-moitié. Donc on commence à entrer dans le mariage parce que on veut avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Et vous arrivez à la crèmerie et je voudrais une motte de beurre des Charentes. La crémière est toute contente, hein. Et une motte entière, 3 kilos. Elle prend, machin, elle vous l'empacte et tout, elle est toute contente. Merci, je garde l'argent du beurre et j'aimerais, avant de partir, un sourire. Vous voulez le beurre, vous gardez l'argent du beurre et vous voudrez en plus que la crémière vous sourie. Voyez. Eh bien, vous voulez le mariage, sans le mariage, avec les avantages du mariage. Ça, c'est le Pax. Eh bien, ça marche pas. Et le mariage civil? Eh bien, en soi, le mariage civil, si vous lisiez et vous lirez normalement les articles du Code civil, vous avez toute une série d'articles qui vous parlent de fidélité, de respect, de l'éducation des enfants, complètement dans la loi naturelle. Mais vous pouvez divorcer. Et même, de nos jours, si vous voulez vraiment divorcer vite, vous pouvez demander à un notaire d'organiser votre divorce avec un avocat. Vous pouvez même décider de la situation des enfants sans juge aux affaires matrimoniales. Waouh ! C'est vraiment de plus en plus facile. Ça rapproche le mariage civil du Pax. Et alors pourquoi l'Église vous demande de vous marier civilement? Parce que si vous vous aimez vraiment, au point de vue financier, au point de vue public, au point de vue de votre nom, au point de vue de votre héritage, eh bien il y a une union. Et ça dépend de César, ça dépend de l'autorité publique. Donc on ne vous mariera pas religieusement sans que vous soyez marié civilement. On ne fait de mariage religieux sans mariage civil que pour des migrants qui ne peuvent pas se marier civilement sans avoir de très grandes difficultés, être expulsés, tout ça. Mais ils vivent ensemble, ils veulent vivre ensemble, ils se connaissent, ils veulent se marier. Vous me direz, mais c'est pas possible, vous avez des cas comme ça? Oui. Oui, oui, des Bangladis, catholiques, chrétiens, des Indiens, des Singalais, des personnes qui veulent pas vivre ensemble sans être mariées. Hein, donc, s'ils n'ont pas tous les papiers, ou alors, comment dire? Donc, en cas de pension de réversion, eh bien, vous avez des veufs ou des veuves, qui... Donc on fait des mariages authentiques avec une veuve, mais sans mariage civil pour pas qu'elle perde la retraite de son premier époux. Et parce que en fait, toutes ces conditions financières et fiscales ne sont pas directement liées à sa situation spirituelle et amoureuse. Mais il y a quand même quelque chose qui détourne une loi bonne. Pourquoi il y a une pension de réversion? Par respect pour le mariage. Et pourquoi on va supprimer la pension de réversion? Et parce que les femmes travaillent. La pension de réversion, c'était parce que les femmes était mère au foyer. Donc comme les femmes travaillent, et bien maintenant on va supprimer la pension de réversion. Ou alors on va la diminuer de moitié et on va l'accorder aux hommes et aux femmes. Voilà. Et c'était le coup de pouce fiscal à la famille. Tout ça, ce sont des lois familiales, ce sont des lois qui marquent un pays comme la France, qui était très favorable à l'encouragement de la famille. Voilà. Donc le mariage civil ou le pacte, tout ça, ce sont des tentatives de pousser les gens à l'union. Le divorce actuellement multiplie les problèmes de logement, multiplie les problèmes financiers, plus particulièrement pour les hommes. Mais bientôt, ça sera l'égalité, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans. Pourquoi ? Mais parce que quand un homme gagnait plus, ou tout ça, c'était l'homme qui était condamné à donner la prestation compensatoire. Mais si les deux gagnent, ou si l'homme gagne moins, enfin, si vous voulez, c'est tout cela, mais c'est des dépenses supplémentaires. S'ils vivaient tous les deux paisiblement, il y aurait moins de dettes, de difficultés, de double appartement. Enfin voilà, il y a un coût financier très important de la querelle humaine et du divorce. Connaissons-nous les causes principales de la désaffection du mariage en faveur de l'union libre ? Désaffection pour le mariage. Ben voilà, mais c'est surtout la crainte. C'est toujours la crainte. Si on se marie, est-ce qu'on est sûr ? Si ça ne va pas, c'est pas seulement un malheur, une tristesse sentimentale. C'est patrimonial. On a engagé des choses, on n'aura pas d'enfants avant. Eh oui. Quand il n'y avait pas de contraception, les gens se mariaient. Alors vous allez me dire, oui, mais c'était pour régulariser. Mais il n'y a même pas vraiment la question de régulariser. L'enfant venait. On avait des relations ensemble, l'enfant venait, à un moment donné, il venait. Quand vous empêchez l'enfant par 1000 moyens contraceptifs, le stérilet, lui, est abortif, c'est-à-dire que l'enfant est conçu et il meurt parce qu'il ne peut pas s'accrocher. Et donc, tous ces moyens font que le concubinage peut durer 1 an, 5 ans, 10 ans, parce qu'il n'y a pas l'enfant commun. L'enfant commun, c'est l'ombre du mariage indissoluble. Parce que vous aurez beau divorcer, vous aurez un enfant entre vous deux qui vous rappellera que vous êtes le papa et la maman. Donc le concubinage vit de la contraception, en règle générale. Pas d'enfant, pour l'instant, on s'engage pas. Si l'enfant vient, vous avez votre instinct naturel qui veut lui procurer un père et une mère. Ensemble. Et c'est ce qu'on appelle la régularisation. Mais la contraception a permis le concubinage. Et le mariage à l'essai, qui use l'âme. Parce que vous êtes là, vous dites, non, alors oui, c'est sûr, c'est pas sûr. Voilà, ça va durer combien de temps ? Voilà, mais bon, sinon, un enfant, on verra plus tard, tout ça, ça va bien avec l'enfant, tout ça, mais c'est des calculs extraordinaires. Et qui ne correspondent pas à la vraie vie. En tout cas, pendant des siècles, on a vécu autrement. Posez-vous des questions. Est-ce que la contraception change la nature humaine ? Non. Elle l'altère, mais elle ne la change pas. Elle reste là, la nature humaine. Les principales raisons des divorces, ça on le verra un peu. Principales raisons des divorces, à part les maladies psychiatriques, les mensonges et les simulations, l'immaturité psychiatrique, parce qu'une nullité de mariage, parce que on ne s'aime plus au bout de 5 ans, c'est on ne s'aime plus au bout de 10 ans, on ne s'aime plus au bout de 15 ans, on ne s'aime plus au bout de 20 ans, vous voyez, c'est du divorce. C'est pas... La nullité d'un mariage, c'est un tribunal ecclésiastique, c'est propre à l'Église catholique, qui ne veut pas le lien persiste toujours et l'engagement persiste toujours, même si on est séparé. Ce lien appelle la réconciliation et la reprise de la vie commune. Mais il y a des personnes qui souffrent tellement qu'ils nous disent, mais il y a un problème, qu'est-ce qui s'est passé? Alors si quelqu'un entretenait une maîtresse ou avec quelqu'un en même temps qui se mariait, il n'a pas l'intention matrimoniale. Mais ça, on peut le prouver et on peut déclarer que toute la belle cérémonie, la messe, l'échange des consentements, le repas après, tout ça, c'était de la simulation. Si la personne était bipolaire, mais bipolaire à un point gravissime, c'est « Ah, je suis bipolaire. Ah, mais qu'est-ce que vous l'avez fait? Il y a eu un problème ?»« Non, mais un coup je suis énervé, un coup je suis joyeux. » C'est pas ça être bipolaire. C'était maniaco-dépressif avant. Non, il faut que ça soit très grave. Il faut que ça soit quelque chose qui change la personnalité. Et que vous n'aviez pas voulu. Par contre, si on tombe malade après le mariage, eh bien, on aime et on soigne. Et des personnes qui se sont mariées avec des personnes très malades psychiatriquement et qui ne le savaient pas, n'ont pas usé de leur droit de faire reconnaître la nullité de leur mariage et ont confirmé leur consentement après connaissance de la maladie et ont soigné leur conjoint et se sont occupés de leur conjoint jusqu'à la mort. De manière parfois héroïque, parfois moins aussi. Enfin, faut pas non plus noircir le tableau. Et donc, si vous voulez, actuellement, qu'est-ce qui reste comme raison du divorce? De laisser la froideur s'installer entre vous. De ne jamais crever les abcès, de ne jamais vous dire la vérité, de ne jamais reconnaître vos torts, de ne jamais demander pardon, de ne jamais pardonner, et à un point tel, 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 qu'à la fin c'est invivable. Et pourtant, le pardon est toujours possible, reconnaître ses torts c'est toujours possible. Toujours possible. Il n'y a pas de situation impossible. Sauf, vraiment, si vous voulez, maladie psychiatrique à la limite. Mais, ensuite, nous sommes arbitres, nous sommes... Écoutez des vieux prêtres. Allez voir des prêtres. Pourquoi pendant des siècles, les gens ont vu des prêtres? Et qu'actuellement, vous voyez des psychologues et des psychiatres qui ne vous guérissent pas et qui ne vous disent... Certains sont bons, d'autres sont mauvais. Le prêtre, vous dites oui, mais le prêtre, lui, son a priori, c'est de nous réconcilier. C'est peut-être pas si mal. Et puis à la fin, comme je vous disais la dernière fois, c'est pas 45 euros remboursés par la Sécu, ou 60 à 80 euros, voire maintenant 100 euros pour le psychanalyste. Donc, ça ne mange pas de pain d'aller voir un prêtre lorsque vous avez une difficulté. Vous allez me dire, oui, mais si on va voir un prêtre, c'est déjà que c'est foutu. Ça va mal. C'est comme l'extrême onction. Hein. Quand on appelle le prêtre, c'est qu'on va mourir. Ben non. On peut faire des onctions à des personnes très malades sans qu'elles meurent. Si, si. Connaissons-nous les positions de l'Église et leur signification sur la séparation et le divorce? Donc maintenant, vous le savez. La séparation de corps, c'est quand on ne vit plus ensemble, mais on reconnaît que le lien est toujours là. C'est très rare, ça existe. Et dans l'ancien temps, comme la société civile ne permettait pas le divorce civil, vous aviez des personnes qui vivaient séparées. Et qui ne recommençaient pas leur vie, ils ne pouvaient pas recommencer leur vie, entre guillemets. Sachez que le divorce, c'est 1791 ou 93, 1816 et 1884. De 1816 à à 1984, il n'y avait pas de divorce. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a eu des divorces de 1791 à 1816. Et c'était le divorce pour faute, hein, uniquement. Divorce par consentement mutuel, il a été passager. Et le divorce est revenu en 1884. Et uniquement pour faute, il n'a été que par consentement mutuel qu'à partir de 1975. Donc ça veut dire que de 1884 à 1975, pour divorcer, il fallait se tromper, s'insulter, se déchirer. Et donc quand les gens divorçaient par consentement mutuel, et qu'il n'y avait pas de dispute véritablement, ils étaient là, oh, bah, je m'ennuie avec toi maintenant, mais bon, bah, alors on se quitte, oh, bah, très bien. Alors on allait voir l'avocat, et l'avocat lui dit, bah, faites une lettre d'insulte. Ah bon, vous pouvez nous donner un modèle? Ah, gros connard, salaud, voilà. Et donc, vous voyez, il l'a insulté, et voilà. Alors, on disait, mais c'est une hypocrisie, donc on va faire le divorce par consentement mutuel en 75. Mais voyez-vous, on ne change pas de vie. Enfin, si vous voulez, imaginez les personnes qui ont été abîmées par des concubinages successifs. À la fin, ça blesse l'âme. Quand vous avez des personnes qui ont eu une, deux, trois femmes dans leur vie, un, deux, trois hommes dans leur vie, et qui finissent par se marier, c'est pas anodin. Il faut être bien, il faut avoir fait bien le bilan de sa vie auparavant. Vous verrez dans votre vie des gens qui se marient à l'église à 50 ans. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mariés civilement, ont divorcé, mais c'était pas marié religieusement. Alors quoi? Ben, ils ne s'étaient pas vraiment engagés du coup. Donc ils ont 20 ans de mariage civil, deux enfants, et voilà-t-il pas qu'ils arrivent à l'église, ils sont retombés amoureux, et mais celle-là, c'est maintenant, c'est la femme de ma vie, je vais vieillir avec elle, on va mourir, l'un à côté de l'autre, et je vais à l'église pour me marier. Comme il n'y avait pas eu de mariage devant Dieu, d'une promesse à la vie et à la mort sans divorce, on estime que leur mariage civil pendant 20 ans et deux enfants, c'est du pipeau. Quelle est la véritable intention de la nature humaine dans ces cas-là? C'est qu'ils se réconcilient et qu'ils se marient religieusement. Ou qu'ils continuent, au moins s'ils ignorent la religion, d'être l'un avec l'autre jusqu'à leur mort. Vous abusez, si vous voulez, de la loi et des règles juridiques humaines de présomption de l'intention des gens quand vous faites ça. Mais c'est possible. Moi, je suis au bureau des mariages de Paris. Vous avez des gens qui sont là, qui ont 45, 55 ans, qui se sont jamais mariés religieusement, donc ils n'ont jamais vraiment promis. Ils étaient baptisés, ils savaient quand même qu'il fallait faire quelque chose de sacré, de religieux, ils l'ont jamais fait. Donc, ils n'ont jamais été vraiment, vraiment engagés. Fou, c'est pas très respectueux du mariage social à la mairie. Je peux pas vous dire que le mariage à la mairie, c'est rien. C'est pas rien. Si vous êtes passé devant le maire, c'est pas rien. Pourquoi? Mais c'est un homme public. Vous aviez votre famille, vous aviez des amis, c'est pas rien. Mais si vous avez un sentiment du sacré, c'est pas parfait de s'arrêter là. Mais vous savez que pendant des siècles, l'échange des consentements se faisait socialement, pas à l'église. Les familles faisaient une fête dans le village, on se donnait les consentements. Et on allait demander au prêtre sa bénédiction, mais on n'échangeait pas les consentements devant le prêtre. au 4e siècle, au 6e siècle, au 7e siècle, au 9e siècle, dans tel ou tel pays. À partir du 12e siècle, on a demandé à ce que les gens viennent dans l'église. C'était pas nécessaire, mais tout le monde le faisait. Et à partir du 16e siècle, dans les années 1500, on a dit c'est obligatoire. Si vous ne venez pas à l'église pour échanger vos consentements, c'est que vous n'avez pas vraiment l'intention de vous marier. Et pourquoi c'est arrivé au XVIe siècle? Parce que aussi bien l'État que l'Église commençaient à avoir une administration écrite, stricte et ordonnée. Et... Mais vous voulez passer par les papiers, par le dossier administratif en vue du mariage, ou voulez-vous vous aimer? Il y a la lettre de la loi et il y a l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est l'amour, c'est la connaissance d'une autre personne humaine, c'est le partage d'une vie. Comme lorsqu'on connaît Dieu. Oui. Moi, si j'aime pas Dieu, mais quelle vie pourrie j'ai, c'est une vie de quoi? De célibataire, avec un appartement de fonction et les honneurs? C'est ça, oh, ben non. C'est un truc de fou. Oui. Si j'ai pas un amour personnel pour Dieu, je suis un pur célibataire. Les moines, les moniales, tout ça sont tous des dingues. S'ils n'ont pas une relation intime et personnelle avec Dieu, si leur prière n'est pas extrêmement profonde, c'est insupportable. Et donc vous, tout en gardant des jardins secrets dont on a parlé la dernière fois, vous devez avoir une communion particulière entre vous. Alors, est-ce que ça doit être fusionnel? Est-ce que ça doit être... Voilà. Il y a un équilibre, de toute façon, chaque être humain est différent.